J'ai choisi de dire la vérité aux Français.
Je veux tenir un langage de vérité.
Ce doit être une élection fondée sur la vérité.
Écoutez, moi je pense que les Français ont envie d'un langage de vérité.
Je suis guidé par le souci de la vérité.
J'ai une conviction. Cette conviction, c'est que le rendez-vous de 2012 sera le rendez-vous de la vérité.
Je crois qu'il faut aussi dire la vérité aux Français.
Je crois que les Français ont le droit à la vérité.
Voilà, clin d'œil à nos confrères de France Info et ce besoin, cet appel à la vérité. Dans l'actualité des idées, bien justement, nous allons parler de vérité ou plutôt de post-vérité. La post-vérité peut-elle s'avérer profitable? Comment la démocratie peut-elle bénéficier de ce nouveau rapport aux faits, moins déterminant que les opinions personnelles, si on tente cette définition? Et si la post-vérité était la première des contre-vérités? C'est en tout cas le parti pris de notre invité, le philosophe Manuel Cervera-Marzal, auteur précédemment de « Les nouveaux désobéissants ». Citoyen ou hors la loi, au bord de l'eau. Il publie aujourd'hui Post-Vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, chez le même éditeur. Bonjour à vous, Manuel Cervera-Marzal.
Bonjour, Olivier.
Merci d'être avec nous. Cette réflexion, est-ce qu'elle est née d'un agacement face au matraquage de ce terme post-vérité, concept un peu fourre-tout, mot-valise, dont on ne sait d'ailleurs pas très bien ce qu'il recouvre, mais qui est utilisé aujourd'hui dans tous les sens pour recouvrir des réalités parfois très différentes? Elle est partie de ça, cette réflexion?
Oui, effectivement, ce livre, c'est un essai, et un essai, c'est toujours situé dans une époque en particulier. Vous l'avez très bien dit, pour moi, il s'agit d'un agacement, d'un énervement face à ce mot qu'on entend à peu près tous les jours, ce mot de post-vérité qui servirait à caractériser notre époque. Alors, vous disiez, on ne sait pas forcément ce qu'on met derrière. En fait, les gens qui utilisent le mot de post-vérité sont à peu près d'accord sur ce qu'ils entendent par là. Leur idée, elle est assez simple, hein, c'est que depuis une dizaine d'années, on va dire, on est entré dans une nouvelle ère qui serait l'ère de l'abrutissement généralisé de l'opinion publique. Et cet abrutissement généralisé, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne tient plus à la vérité, mais qu'on se base sur des émotions irrationnelles, sur des opinions subjectives, cette entrée dans l'ère de l'irrationalité, irrationalité des masses hein, en particulier, j'y insiste, elle serait causée par un phénomène qui est Internet, ou en tout cas les réseaux sociaux. Voilà. Bon, après, le grand mal viendrait des réseaux sociaux.
Le terme abrutissement vient de vous, en tout cas ce jugement ou cette qualification, ceux qui l'utilisent n'ont pas forcément pour idée que nous serions victimes de cela, mais en tout cas il y aurait cette notion que vous venez d'évoquer d'une vérité, de fait, d'une réalité aujourd'hui qui pourrait être parfois moins importante que des opinions personnelles ou subjectives sur certaines situations.
Oui, ils ne le disent pas en des termes aussi crus que ceux que j'ai utilisés, ils ne parlent pas d'abrutissement. Mais c'est vraiment l'idée qu'on entre quand même dans une époque sombre, en tout cas dangereuse pour la démocratie, parce que justement le peuple se mettrait à prendre la parole à travers les réseaux sociaux et déverserait sur Internet tout un tas de théories complotistes, de fake news, etc. Et moi, j'ai voulu vraiment prendre le contre-pied de cette idée parce que il me semble que, enfin, on n'a pas apporté de preuves tangibles du fait que aujourd'hui on serait moins attaché à la vérité qu'autrefois. Enfin, c'est une façon de diaboliser le présent. Au contraire, même on a plutôt des indices qui semblent nous montrer que l'attachement à la vérité a peut-être même progressé grâce à l'élévation du niveau d'éducation, à la démocratisation scolaire, au fait qu'on soit entré dans une société de l'information. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et puis d'ailleurs, cette idée de post-vérité, elle suppose aussi que du coup, avant l'entrée dans la post-vérité, on aurait vécu une espèce de belle époque révolue, l'époque de la vérité. Mais ça aussi, cette idée-là, c'est une façon d'idéaliser le passé. Est-ce que, quand au XXe siècle, on nous parlait de la der des der au lendemain de la Première Guerre mondiale, qu'on nous parlait du diesel propre, qu'on nous parlait du plein emploi, tout ça, c'est des promesses qui se sont révélées non réalisées. C'était aussi des promesses mensongères. Des phénomènes aujourd'hui comme la rumeur, voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Les rumeurs complotistes, c'est des phénomènes en réalité que les historiens ont l'habitude d'étudier. Au XIIIe siècle, la rumeur sur les lépreux qui empoisonneraient les puits. Au XVIe, XVIIe siècle, les rumeurs sur la couronne et la cour du roi qui organiseraient sciemment la famine. Voilà, les rumeurs, c'est des phénomènes de masse qui n'ont pas attendu l'émergence des réseaux sociaux pour exister.
Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est quand même entré dans une nouvelle ère? Peut-être pas avec les mêmes enjeux ou les mêmes conséquences que ceux que certains des limites définissent aujourd'hui. Est-ce que vous dites l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet, cette nouvelle manière de communiquer, cette nouvelle manière aussi d'informer ou d'être informé n'a rien changé?
Si, ça change des choses. La première chose que ça change, c'est que ça ouvre la parole, les Internet et les réseaux sociaux, ça ouvre la parole à des personnes qui auparavant n'y avaient pas accès, ou en tout cas y avaient plus difficilement accès. C'est ça le point central des blogs, notamment les blogs au début des années 2000. Hein. Bon, aujourd'hui, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent connaissent moins ça, mais ça a précédé Facebook, Twitter, etc. Les blogs, je me rappelle qu'à l'époque des Skyblogs, il y avait eu des millions de blogs qui avaient été ouverts, et ça permet des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de la prendre. Et je crois que c'est la définition même de la démocratie. La démocratie, c'est quand on permet à n'importe qui de prendre la parole. Quand le monopole de la parole échappe justement à ceux qui ont l'habitude de l'exercer sur les plateaux, depuis leur porte-parole, etc. Donc on est dans une nouvelle ère. La question, c'est est-ce que parce qu'on donne la parole à n'importe qui, ça nous amène à raconter n'importe quoi? Est-ce que cette démocratisation de la parole, il faut la regretter parce que justement elle ouvre la voie à des discours populistes, à des discours complotistes, à des discours conspirationnistes? Moi, je fais pas partie de ceux qui sont dans le regret, parce que bien sûr ça ouvre la voie à ces propos qu'on aimerait bien éviter, mais ça ouvre aussi à des expériences tout à fait inédites, comme par exemple la mise en place de Wikipédia, l'encyclopédie collaborative la plus innovante et aussi la plus complète de l'histoire de l'humanité. Ça ouvre Wikipédia, je reste dessus un instant, parce que il y a une étude qui a été faite dernièrement qui comparait la fiabilité de Wikipédia, donc qui fonctionne sur un mode collaboratif, avec la fiabilité de l'encyclopédie Britannica, où chaque article est là rédigé par une seule personne qui est un expert sur le sujet. Et le résultat était que les articles de Wikipédia sont fiables dans 91% des cas, totalement fiables, alors que ceux de Britannica seulement dans 81% des cas. Donc en réalité, qu'est-ce que ça montre? Ça nous montre, ça valide une vieille idée, qui était celle, une idée formulée par Aristote déjà à l'époque, qui disait que le regroupement d'une multitude d'ignorants produit des résultats plus fiables, plus véridiques, si l'on veut, que la parole d'un seul expert. Donc voilà, je crois que c'est cette période. Il s'agit ni de la diaboliser, ni de l'idéaliser. Hein, c'est le risque aussi. Moi, je prends un peu le contre-pied de ceux qui parlent de post-vérité, qui se lamentent de cette nouvelle époque. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'idéalisation de cette époque-là. Mais voilà, j'appelle à de la nuance quand on étudie et qu'on s'intéresse aux effets justement du numérique et en particulier d'Internet sur la politique.
Et comment est née cette notion de post-vérité? Pour la comprendre aujourd'hui, vous en avez aussi retracé la généalogie. Comment cette notion a-t-elle émergé et quel vide est-elle venue remplir?
Oui, quand on utilise comme ça une notion, bon, ça me fait penser un petit peu, cette notion de post-vérité, c'est un peu comme la notion de populisme, ce qui circule beaucoup aujourd'hui pour qualifier à peu près tout ce qu'on comprend pas, voilà, dès qu'on comprend pas, ou en tout cas dès que survient un événement imprévu, l'élection de Donald Trump, le Brexit, on a des espèces de on est décontenancé, et dessus tout de suite, pour se rassurer en fait, on pose des mots qui fonctionnent comme des espèces de solutions miracles, d'explications pour tout, et post-vérité en fait absolument partie. Et ce qui m'a frappé, c'est que la plupart de ceux et celles qui utilisent cette notion, qui sont les gens ordinaires, si vous me permettez, moi dans les discussions que j'ai au quotidien, personne me parle de post-vérité. Post-vérité, c'est un terme qu'on retrouve à longueur d'édito dans la presse écrite comme dans la radio et la télévision. C'est un mot que certains politiques emploient, mais voilà, c'est pas un mot, il n'est pas encore entré dans le langage courant, contrairement au mot de populisme. Et ce que j'ai remarqué, c'est que justement toutes celles et ceux là qui emploient ce mot de post-vérité n'ont pas conscience et ne cherchent d'ailleurs jamais à savoir d'où il vient. Or, quand on utilise un terme, il est quand même parfois instructif d'avoir au moins une idée un peu précise de son origine. Et c'est un terme qui nous vient des États-Unis, qui commence à être utilisé dans les années 80, pas par n'importe qui aux États-Unis, mais par la droite conservatrice, la droite conservatrice américaine, qui utilisent cette notion pour attaquer la gauche qu'ils appellent libérale, multiculturelle, qui est une gauche qui s'inspire en partie des idées françaises, justement, de philosophes français comme Michel Foucault ou Jacques Derrida. La pensée de Foucault et Derrida a été réappropriée par tout un tas de mouvements sociaux, de mouvements d'émancipation, que ce soit de mouvements antiracistes, anticoloniaux, de mouvements féministes qui ont attiré l'attention sur le fait que ce qu'on présente souvent comme un savoir absolument objectif est en réalité parfois en partie le fruit de rapports de pouvoir. C'était ça un petit peu une des grandes idées de l'époque. L'idée aussi que l'universalisme pouvait véhiculer des formes d'impérialisme, que ce qu'on présentait comme universel, c'était en réalité souvent du particulier, notamment l'homme blanc occidental, qui imposait aux autres sa norme et son universalité. Il y a eu tous ces discours dans les pensées critiques et les mouvements sociaux des années 60-70, qui ont été des discours assez véhiculés, et si vous voulez, et qui ont fait avancer les droits des femmes et les droits des noirs, voilà, j'y insiste. Et en réaction à ça, il y a eu une réaction réactionnaire, une réaction de droite, qui a consisté à dire, oh là là, mais attention, ces gens-là qui prétendent œuvrer pour l'émancipation humaine, en réalité, nous plonge dans le relativisme. Alors le relativisme, vous savez que c'est mal, c'est le chaos, voilà, c'est le début du désordre généralisé et de la violence. Et donc, attention, ces gens-là nous plongent dans le relativisme en nous disant que la vérité n'existe pas, qu'il n'y a que des vérités au pluriel, subjectives, incommensurables, etc. Donc ce mot de post-vérité, voilà, il naît dans un contexte de véritable guerre, ou en tout cas controverse intellectuelle et politique, et voilà, il faut savoir un petit peu qui sont ceux qui l'ont forgé et utilisé pour le reprendre aujourd'hui, quand on décide de le reprendre, ce qui n'est pas forcément mon cas, le reprendre au moins avec certaines précautions.
Et à propos de rapport de domination, vous écrivez qu'il serait hypocrite aujourd'hui de défendre le droit au mensonge des dominés et de refuser aux dominants ce même droit. La politique est une lutte entre deux camps et mentir appartient à la panoplie des moyens légitimes. Je vous propose d'écouter Myriam Brevaud-Dallon, philosophe qui a elle aussi travaillé sur ce concept.
La capacité à mentir tire sa racine de la liberté humaine qui consiste à transformer le réel. Donc il y a une racine commune, ce qui ne veut pas dire que mentir c'est bien, c'est pas ça le problème. Mais il y a une sorte de dérivation ou de perversion possible de cette capacité de l'homme à être libre, à transformer le réel, c'est-à-dire à agir. Et donc d'une certaine façon, le plaisir, je me demande, parce que si le plaisir que beaucoup ont à écouter Trump énoncer des mensonges ne vient pas du fait de cette espèce de liberté qu'ils s'accordent et qu'eux-mêmes, évidemment, ils n'en sont pas conscients. Ils sont en train d'analyser des phénomènes dans les individus et ça répond simplement à un désir inavoué.
La voix de la philosophe Myriam Brevaud-Dallon à propos du plaisir, peut-être coupable aussi dans le mensonge, Manuel Cervera-Marzal. C'est vrai qu'il y a aussi, on se dirait a priori qu'une société privilégie aujourd'hui la vérité sur le mensonge, que c'est plutôt rassurant. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez vous aussi un plaisir coupable à entendre cette langue de Trump?
Oui, enfin celle de Trump, je sais pas. Moi, c'est sûr que l'élection de Donald Trump a beaucoup joué aussi dans le succès de ce mot-là, de post-vérité, qui a été élu. Je sais pas si comment a été organisée cette élection, mais mot de l'année 2016 par le dictionnaire d'Oxford. Moi, Trump, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que souvent, quand on parle de lui, on le prend pour un rigolo, pour un clown, pour un amuseur de galerie, et aussi pour quelqu'un d'inoffensif. Et je crois que c'est sous-estimer justement l'intelligence politique de ce personnage, qui est certes un baratineur, quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de la vérité, qui en fait n'a peut-être même pas l'idée de ce qui est vrai. Voilà, je dis dans le livre un petit peu méchamment, mais qu'il n'est pas capable de situer la France sur une carte. Voilà, que c'est quelqu'un, son expression favorite quand on lui oppose un contre-argument factuel, c'est whatever ou who cares. Voilà, c'est quelque chose qu'il répète à longueur de journée. C'est même pas quelqu'un qui est dans le mensonge en fait, qui chercherait à cacher la vérité. C'est quelqu'un qui se contrefiche de la vérité parce que ce qui l'intéresse, c'est s'enrichir et tweeter. Voilà, il a un désintérêt manifeste pour la vérité, et c'est ce qui fait que beaucoup se moquent de lui. On le caricature, on l'a peut-être jamais autant caricaturé un homme politique, et moi la seule chose que je dis c'est attention, prenons-le quand même au sérieux, parce que ça a beau être un clown, il a quand même deux choses entre ses mains. La première, c'est une certaine virtuosité politique. Il a été élu grâce à son baratin et ses mensonges. C'est quelqu'un qui a tout à fait compris que c'était payant politiquement d'asséner à longueur de journée des chiffres mensongers, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essaye de vérifier un de ces chiffres, c'est trop tard. Il en a déjà lancé trois nouveaux dans le débat, donc c'est quelqu'un qui a compris ça. Et par ailleurs, c'est quelqu'un dont les décisions ont des effets directs sur la vie de millions de personnes, je pense notamment aux latinos et aux plus pauvres aux États-Unis. Donc attention, c'est pas un rigolo, c'est voilà.
Mais beaucoup le prennent très au sérieux, pour preuve toutes les entreprises de fact-checking comme on dit, qui ont été mises en place pour démonter ces discours, montrer ces mensonges et tenter de rétablir la vérité de certains faits. Donc on peut pas dire qu'il est tout le temps pris à la rigolade aussi, Donald Trump. Je pense que la presse américaine est assez exposée sur ce point-là, de tenter de montrer le vrai du faux aussi de ses discours. Alors est-ce que là, dans les mensonges de Donald Trump, vous voyez aussi certaines vertus ? Est-ce que ça peut raviver, régénérer la démocratie américaine ?
Non, je vois pas de vertu dans les mensonges de Donald Trump, mais parce que je reviens au point de départ de mon analyse, qui est en fait, je me contente de reprendre ce que disait Machiavel sur ce sujet, c'est que toute société humaine, ou en tout cas toutes les sociétés humaines, quasiment toutes celles qu'on a connues historiquement, sont des sociétés traversées par un conflit entre ce que Machiavel appelle les petits et les grands, le peuple et les patriciens. Voilà. Toute société est traversée par des rapports de domination. Alors dans un langage plus sociologique, plus contemporain, voilà, on dirait domination des hommes sur les femmes. Le rapport d'Oxfam vient de sortir. Domination évidemment des 26 milliardaires qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. Il y a toujours des rapports de domination. Donc la politique, c'est pas se mettre autour d'une table pour tous tomber d'accord sur des normes de fonctionnement. Non, la politique, c'est du conflit, c'est du rapport de force. Et moi, le point sur lequel j'attire l'attention, c'est que dans ce conflit entre dominants et dominés, les dominants font un usage systématique du mensonge, et ils le font sans aucune retenue, avec voilà, de manière parfaitement assumée. Quand ils parlent de l'intérêt général, pour en réalité parler de leurs intérêts particuliers, quand ils appellent démocratie, ce qui est en fait une oligarchie élective, quand il parle de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'en fait il s'agit de plan de licenciement. Enfin, en permanence, il galvaude les mots pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils signifient. Donc ils sont, voilà, dans le mensonge permanent, et eux en ont bien conscience. Donc mon livre ne s'adresse pas aux grands, comme disait Machiavel. Il s'adresse plutôt aux petits pour leur rappeler à eux que eux aussi, justement, ont le droit de recourir à la ruse, de recourir au bluff. Mais ils m'ont pas attendu pour le comprendre. Quand des gilets jaunes annoncent qu'ils vont tenir la manifestation à tel endroit, et qu'en réalité, au dernier moment, ils se rendent tous à tel autre endroit pour décontenancer les forces de l'ordre, bon bah voilà, ils sont justement dans le mensonge, et c'est une stratégie légitime dans le conflit politique, et c'est sur ce point-là que je voulais insister.
Mais si le mensonge est généralisé, qui croire alors ? Bah, d'autant que, et vous le rappelez, toutes les figures d'autorité sont aussi en train de se fissurer aujourd'hui. Ça va bien sûr des représentants ou du personnel politique jusqu'à la presse. Qui croire ? Comment ? À quelle parole se fier ?
C'est une bonne question. Le mensonge est pas généralisé, et moi je plaide en aucun cas pour qu'il le devienne. Je pense que dans la société, il y a tout un tas de professions dont justement la vocation est de défendre la vérité et d'enquêter sur les faits. Les journalistes, les premiers, les juges, les chercheurs, les intellectuels, les statisticiens, voilà, il y a tout un tas de personnes qui ont pour but de protéger et défendre la vérité, et heureusement qu'ils sont là, parce que une société qui serait tout entière livrée aux mains des acteurs politiques, qui eux emploient les petits ou les gros mensonges à longueur de journée, serait une société proprement invivable. C'est pas tenable. Simplement, voilà, moi j'insiste sur la différence des sphères et sur le fait qu'on a besoin de ces professions qui ont pour tâche de protéger la vérité et qui doivent savoir faire la part des choses. Il y a des moments où un historien travaille comme historien, donc exhume des archives, essaye d'établir les faits le plus précisément possible. Et puis il y a des moments où il va donner son avis sur certains sujets et où là il peut éventuellement non pas mentir sur les chiffres, mais peut-être les tourner d'une certaine façon, les présenter à son avantage. Et je dis qu'à ce moment-là, l'historien, pour prendre cet exemple, n'agit plus en tant qu'historien, mais agit en tant que citoyen. Voilà, il présente les chiffres d'une façon qui va peut-être servir la cause politique qui est la sienne. C'est deux casquettes différentes et je fais la distinction.
Et c'est aussi le rôle de l'État d'être le garant de la vérité. Je vous propose d'écouter les mots d'Emmanuel Macron. C'était en janvier l'an passé, autour de la loi contre les fake news.
Et au moment où la figure du journaliste est plus essentielle que jamais, il n'a jamais été aussi facile de se prétendre journaliste. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre public l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Si nous voulons protéger les démocraties libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires.
La place de l'État dans ce débat pour vous, Manuel Cervera-Marzal?
Je crois que c'est absolument pas l'État de se faire le garant de la vérité. Et les propos qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, bon, d'abord me semblent tout à fait irréalistes. En fait, à chaque fois qu'on demande à la justice ou même aux législateurs d'essayer de protéger la vérité, de limiter les fake news, on sait très bien, Emmanuel Macron le premier, que le juge comme le législateur ont toujours un temps de retard sur ce qui circule sur la toile. Donc ces propositions de loi-là sont en réalité inapplicables, mais à la limite, le problème de fond, c'est pas qu'elles soient inapplicables, c'est qu'en plus elles sont dangereuses parce que c'est à la société civile de pouvoir débattre, de pouvoir délibérer, de pouvoir faire s'affronter différentes versions de ce qu'elles considèrent comme étant vrai. C'est pas au pouvoir de trancher ça. Et Hannah Arendt, dans son texte absolument central sur mensonge et vérité, rappeler ça avec force à partir du moment...
Auquel faisait référence Myriam Revaud-Allonne dans l'extrait.
Exactement, qui a beaucoup compté pour Myriam Revaud-Allonne et qui compte beaucoup dans mon livre aussi, parce que c'est un texte absolument fondamental. Hannah Arendt explique qu'à partir du moment où on a un pouvoir qui prétend détenir la vérité ou... version plus douce, en partie exemplifiée par les propos d'Emmanuel Macron, à partir du moment où on a un pouvoir qui prétend être en capacité de faire respecter la vérité, en réalité, on entre dans l'engrenage totalitaire, parce que c'est vraiment, je n'emploie pas ce terme pour faire peur, c'est dans le contexte d'analyse des régimes totalitaires que Arendt parle de ça. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenir l'horizon de vérité. Bien sûr, on doit désirer la vérité, on doit y aspirer. C'est par exemple... ce à quoi aspire aujourd'hui le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, dont le combat de sa famille et de ses proches vise à faire reconnaître que celui-ci est décédé. Il est décédé donc dans un commissariat il y a quelques années entre les mains de policiers. Et il y a une controverse, voilà, entre la version des pouvoirs publics et des policiers qui disent que c'était parce qu'il était faible physiquement et la version des proches qui disent que voilà, c'est une prise des policiers qui causer son décès. Donc là, pourquoi je reviens sur cet exemple ? Parce qu'il y a une différence entre d'un côté les autorités qui prétendent détenir la vérité et qui, quand elles s'entêtent là-dedans, mettent en place une politique de harcèlement de la famille d'Adama Traoré. Tous ses frères sont aujourd'hui en prison dans cette affaire. Et de l'autre côté, il y a ceux qui désirent la vérité, qui aspirent à la vérité. Et il me semble que désirer la vérité, plutôt que prétendre la détenir, c'est beaucoup plus émancipateur.
Ou la famille qui a aussi sa vérité, celle qu'elle met en avant. Et au final, c'est à la vérité judiciaire de trancher. Et il faudra que chacun la reconnaisse. reconnaissent. Parce que pour l'instant, il y a quand même encore des instances qui sont là, et vous l'évoquiez, en charge de dire quelles sont les vérités. Vous parliez de l'importance aussi en démocratie de faire vivre le débat. Avoir la liberté de mentir, c'est avoir le pouvoir de transformer la réalité. La vérité, et c'est intéressant, vous le rappelez, elle fige tout, elle clôt le débat. Là où il n'y a plus de discussion, là où il n'y a plus de dissensus, il n'y a plus de chance d'accéder à la vérité. Ça vaut aussi cette idée de vérité, de mensonge, dans le débat d'idées aujourd'hui, que vous trouvez trop univoque.
Oui, le débat d'idées aujourd'hui, je le trouve plutôt stimulant. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a sur le marché des idées un certain nombre de propositions. Après, je sais pas si c'est lié à une disposition personnelle ou autre chose, mais ce qui m'intéresse effectivement, c'est voilà, c'est le conflit, parce que je pense, et à nouveau, hein, j'en reviens à Machiavel, je pense que du conflit naît la liberté. C'est pas cette idée. Souvent, il y a une idée qui est exposée, c'est que quand on vit en démocratie, quand on vit dans un régime de liberté, on est libre de s'affronter, on est libre d'entrer en conflit. L'idée de Machiavel, c'est l'idée inverse. C'est vraiment, c'est dans le conflit, dans le désordre que peut surgir la liberté. Et ça, c'est une idée auquel je crois beaucoup, et c'est pour ça que j'ai emprunté à la forme essai, qui est une forme qui échappe un petit peu à toutes les autres. Hein. C'est un essai, c'est ni un ouvrage scientifique, c'est pas non plus un roman, c'est quelque chose qui voyage un petit peu entre les deux. Mais un essai, en tout cas, c'est toujours l'idée d'amener un petit peu de poil à gratter dans le débat public, d'être l'empêcheur de tourner ou l'empêcheur de penser en rond. Et ça, voilà, c'est quelque chose auquel...
Là, vous dites avoir même commencé à l'écrire en essayant de penser contre vous-même aussi, que cette notion de post-vérité était presque tellement établie et acceptée aujourd'hui que ça vous a semblé un peu simple et que vous avez donc cherché une autre voie. Est-ce que vous y avez trouvé une idée vraiment convaincante ?
Non, je crois pas, justement. Je crois qu'il y a beaucoup de moments, je relisais avant de venir chez vous mon livre, il y a beaucoup de moments où justement je suis pas d'accord avec ce que j'écris, où je me dis que ça c'est peut-être beaucoup trop précipité, mais à la limite c'est pas très grave, parce que ce qui compte c'est justement c'est d'être en mouvement, d'être dynamique, c'est le cheminement. Vous savez, c'est Samuel Beckett qui disait échouer, échouer encore, mais échouer mieux. Voilà, on est dans, enfin en tout cas je suis dans l'échec permanent, mais c'est au moins c'est un échec qui est dans la tentative, et il s'agit pas d'opposer au discours qui commence à être un peu un dogme, hein, sur la post-vérité. On est entré dans l'époque de la vérité. Franchement, c'est plus uniquement une opinion dominante, hein. Ça commence à s'imposer comme un dogme, et il s'agit voilà de prendre ce dogme à revers pour essayer de le fissurer un peu. Mais j'ai rien d'autre, malheureusement, j'ai pas de dogme alternatif à vous proposer.
Aujourd'hui, Manuel Cervera-Marzal, auteur de Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, et précédemment de Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi. On avait quand même envie de vous entendre aussi sur le mouvement des Gilets jaunes, puisque vous êtes quelqu'un qui suivait l'actualité de très près. Est-ce que vous classez les Gilets jaunes parmi les nouveaux désobéissants ?
Oui, je les classe parmi les nouveaux désobéissants, parce que quand ils occupent un rond-point, quand ils bloquent une autoroute, quand ils vont bloquer les caisses d'un supermarché pour contester les profits de la grande distribution, toutes ces actions... C'est des actions, hein, j'ai été vérifié, qui sont illégales, elles sont pas autorisées par les préfets, donc c'est des actions désobéissantes. Et le deuxième point, j'y insiste, c'est des actions qui sont non violentes, dans l'immense majorité des cas. Bien sûr, il y a les images, il s'agit absolument pas de les nier, il y a toutes les images qui ont circulé, des coups de violence, etc. Mais c'est un mouvement qui dans sa majorité, au niveau des modes d'action employés en tout cas, relève de l'illégalité, de la non-violence. Donc c'est typiquement de la désobéissance, et c'est intéressant de voir que, alors qu'il y a encore un demi-siècle, on occupait les usines ou les universités, eh bien aujourd'hui l'occupation s'est déplacée vers les places publiques, hein, qu'on fait à Nuit Debout en 2016, et vers les ronds-points, pour une raison assez simple, c'est que les usines, il y en a plus, elles ont fermé, elles ont été délocalisées, et les universités, alors je crois que Madame la ministre de l'enseignement supérieur était là juste avant, les universités aujourd'hui, quand les étudiants les occupent, eh bien les présidents d'université appellent le préfet pour qu'il envoie la police et déloge les étudiants de leurs propres universités. Et donc que reste-t-il pour manifester notre notre envie d'être ensemble de lutter pour plus de justice et de solidarité, bah, il reste simplement ces espaces publics que sont les places et les ronds-points.
Vous mettez en avant la dimension non-violente du mouvement, c'est les actions pacifiques nombreuses qui ont été réalisées, des blocages de ronds-points aux occupations ou aux défilés dans le calme, et il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la dimension violente de ces mobilisations aussi, celles qui ont encore émaillé les deux derniers actes et les derniers samedis. Ça a commencé par des violences plutôt faites aux biens, avec les voitures brûlées, les vitrines cassées, les magasins, et puis sur les deux derniers samedis, des violences matérielles qui ont évolué vers des violences faites aux personnes, et notamment contre les journalistes, cible des deux derniers actes. Il y a récemment une tribune qui est parue ce dimanche dans le JDD du collectif des Gilets jaunes citoyens qui a dénoncé et condamné des actes odieux et antidémocratiques, appelant eux-mêmes à faire aussi le ménage dans leur rang, à montrer qu'il existait une frange majoritaire de Gilets jaunes qui sont pour des actions pacifiques, en tout cas qui se déroulent en bonne entente avec notamment les journalistes qui sont là pour rendre compte de cette situation. Là, on en revient à la question aussi de la vérité, des faits, de l'information, etc. Comment vous regardez la situation actuelle dans le mouvement ?
Oui, alors juste sur les violences commises à l'encontre des journalistes, des violences absolument déplorables et inadmissibles, les collectifs de journalistes eux-mêmes ont pris la parole signalaient un point important, c'est qu'il y a eu certaines violences venant de la part de Gilets jaunes, mais les principales violences, et je parle vraiment en termes de blessures et de dégâts physiques qu'elles ont causés, les principales violences commises à l'encontre des journalistes ne viennent pas des Gilets jaunes, mais des forces de l'ordre. Voilà, c'est un petit point à rappeler. Et un autre point de détail, c'est que les tribunes publiées par le journal du dimanche, le journal se garde bien de le préciser, mais sont signés, qu'il s'agisse des Gilets jaunes libres ou des Gilets jaunes citoyens, par des porte-paroles autoproclamés, tous affiliés par le passé à des partis du type Debout la France ou le Front National, mais que le JDD présente comme des porte-paroles des Gilets jaunes, alors que ces personnes-là, quand elles se présentent sur les ronds-points, se font malu militari expulsés par les autres Gilets jaunes. Donc il y a toutes ces choses-là à rappeler. Et puis après, voilà, moi je veux bien qu'on parle de violence pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la situation actuelle, mais si... ce mot de violence, on l'utilise exclusivement pour qualifier les actions des Gilets jaunes. Alors, on est dans l'hypocrisie la plus totale, parce que la première des violences, c'est la violence structurelle, c'est la violence invisible de ce monde dans lequel on parlait d'Oxfam tout à l'heure, 26 hommes... c'est tous des hommes, quasiment, possèdent la moitié des richesses, enfin autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est ça la première violence, en fait, la violence qui entraîne toutes les autres et dont il faut parler, cette violence structurelle. Et l'autre violence, c'est évidemment la violence policière, 10 000 grenades lancées en une journée, c'est l'équivalent de ce qui a été lancé durant toute l'année 2017, donc on est vraiment là dans un usage absolument disproportionné de la violence de la part de l'État.
Merci beaucoup à vous, Emmanuel Cervera Marzal. Les nouveaux désobéissants, c'était votre précédent essai, Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, le nouveau qui apparu aux éditions Le Bord de l'eau. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table.